Bonjour à tous. Comment allez-vous? Ça va? Amen, on est content d'être ensemble. Je souhaite aussi bienvenue à ceux qui nous rejoignent, bienvenue à la maison. Si vous êtes de passage, on est très heureux de vous avoir pardon, avec nous. Voilà, je vais juste invoquer le nom du Seigneur avant d'ouvrir sa parole et vous pouvez prier avec moi. Nous sommes dans une église et le Seigneur a dit que cette maison sera appelée une maison de prière. Est-ce qu'il y a des gens qui prient? Est-ce que vous priez avec moi? Amen. Alors on va prier. Merci Papa pour ta présence. Jésus, tu règnes dans ce lieu et c'est ton nom que nous élevons au-dessus de tout autre nom. Seigneur, nous voulons ramener toute pensée captive à Christ. Au nom de Jésus, les ténèbres s'enfuient, les soucis s'enfuient, la maladie s'enfuit au nom de Jésus. Et nous voulons écouter ce que toi seul veux nous dire. Et si tu souhaites, si tu désires bouleverser le message, apporter quelque chose de frais, encore de nouveau, même qui n'est pas forcément écrit sur ma feuille, c'est toi qui décides, Saint-Esprit. C'est toi qui diriges ces moments maintenant. Seigneur, viens guérir les malades, ressusciter les morts, Seigneur, au nom de Jésus. Merci de tout ce que tu vas faire, Papa. Amen. Amen, amen, amen. Merci pour ta parole. Alors, on va faire une première lecture très brève dans Exode chapitre 20, du verset 3 à 6. Une lecture très brève. Chapitre 20, ouais. Je vous dis ça et moi j'étais au chapitre 3. Pardonne, Seigneur. Alors, quand on y va? Exode chapitre 20, verset 3. C'est parti. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi. Tu ne te feras pas de statue ni aucune forme de ce qui est dans le ciel en haut, de ce qui est sur la terre en bas ou de ce qui est au-dessous de la terre dans les eaux. Tu ne te prosterneras pas devant ces choses et tu ne le serviras pas, car moi, le Seigneur ton Dieu, je suis un Dieu jaloux. Et moi, la traduction, j'ai. Je suis un Dieu à la passion jalouse. Et je m'arrêterai là. Alors, la première pensée que j'ai à partager avec vous ce matin, c'est les autres dieux qu'il y a dans nos vies, les idoles qu'il y a dans nos vies. Alors évidemment, quand on parle ici de statues, pour ceux qui ont grandi dans les églises protestantes, évangéliques, baptistes, qu'importe, en tout cas d'ascendance protestante, parce que notre héritage est quand même protestant, évidemment, on n'a plus d'idoles dans nos églises, on n'a pas de statues vers qui se tourner. On ne va pas prier des statues. Si vous êtes une confession autre, peut-être catholique ou qu'importe, et que vous faites cela, on ne veut pas juger votre dénomination, on ne veut pas juger ce que vous faites, mais bien sûr, on va parler de ce que la parole de Dieu dit. Qu'importe nos interprétations, nos manières, nos traditions, moi ce qui compte ici ce matin, ce n'est pas les traditions, ce n'est pas nos interprétations, c'est la parole de Dieu qui a autorité. Et ce qui m'intéresse, c'est ce que la parole de Dieu nous dit. Alors, évidemment, vous avez souvent, pour ceux qui entendent la parole de Dieu depuis des années, vous avez souvent entendu parler des idoles, qu'on peut toujours avoir des idoles, on peut toujours avoir des idoles dans nos vies. On l'a souvent entendu dans peut-être plusieurs prédications. Et moi, au début de ma conversion, j'avais une idole. Et je l'ai déjà raconté peut-être, mais ceux qui ne le savent pas, cette idole s'appelait l'Olympique de Marseille. Et plus que ça, c'est-à-dire que j'étais dans les travées du virage nord du stade Vélodrome, boulevard Michelet, dans le 9e à Marseille, pour ceux qui connaissent. Et c'est plus que, vous savez, quand on est dans le milieu ultra, dans le milieu du supporterisme, c'est plus que aimer du foot et regarder un spectacle de foot. C'est plus que ça. C'est votre vie est dédiée à ça. Vous êtes, comme on dit chez les jeunes, on est matricé par ça. On pense qu'à ça. On vit que pour ça. Et alors que j'étais au début de ma conversion, je continuais à aller au stade. Et un jour, ma famille me rend visite et on va chez des amis à Aubagne. Et ils me disent, qu'est-ce que tu veux ce soir? Je dis, mais moi, les gars, je vais au stade. Il n'y a pas d'arrangement. Et ils disent, bah, écoutez, on va y aller en famille. Donc, eux, ils sont allés en famille. Mais vous savez, vous pouvez aller dans un stade, c'est pas grave. Hein, c'est pas... Et y a des tribunes familiales. Donc, eux, ils sont allés en tribune familiale. Ils se sont assis, ils ont regardé le spectacle. Et moi, j'étais dans mon virage. Et vous savez, dans le virage, ce qui compte le plus, ce n'est pas de regarder le spectacle, ce qui se passe sur le terrain, c'est de chanter le plus fort possible, le plus longtemps possible. Moi, des fois, je passais tellement du temps à chanter que des fois j'avais des extinctions de voix pendant 2 jours après. Donc croyez-moi, quand je suis dans la présence de Dieu aujourd'hui, que Jésus m'a sauvé, je ne vais pas me priver de chanter. Je ne vais pas me priver d'élever la voix. Et alors que ce dernier match que j'ai vécu au stade Vélodrome, j'étais dos au match et on chantait comme ça. Et le lendemain, je me retrouve à l'église. Et le prédicateur entame la prédication, il dit, voilà, moi hier soir j'étais aussi au Vélodrome, et j'étais spectateur, j'ai amené mon fils, c'était sympa, et j'ai regardé ceux qui étaient dans les virages. Mais il ne savait pas que moi j'étais dans les virages. Et il dit, ceux qui étaient dans les virages, ils étaient dos au match, torse nu, chantant à tue-tête pendant 90 minutes, et ils faisaient des invocations au Dieu Olympe. Et là, la parole de Dieu m'a transpercé, m'a dit, voilà, ce que tu fais, c'est que alors que tu dis que tu marches avec moi, que tu me sers, tu as encore un autre Dieu devant ta face. Et j'ai réalisé que ce qui prend la place de Dieu, ce qui est en première place dans mon cœur, c'est une idole. Alors évidemment, c'est aujourd'hui, peut-être qu'on n'a plus des petites statues, peut-être qu'on n'a plus de petites, comment dire, je sais pas, des objets quelconques, mais on a des idoles. Alors aujourd'hui, bien sûr, moi, ma famille est marseillaise, je suis toujours supporter de l'OM, mais ce n'est plus ma passion, ce n'est plus mon idole. Le premier que je supporte, c'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui qui prend la place dans mon cœur et c'est pour lui que je veux rester debout et chanter. Et quand je venais dans l'église, vous vous rendez compte, je m'asseyais tout timide, à peine si je fredonnais le chant, et le dimanche au soir, j'étais debout en chantant 90 minutes, c'est pas logique. C'est pas logique. Ce qui est logique, c'est de chanter dans la présence de Dieu. Ce qui est logique, c'est d'élever la voix pour notre Dieu. Donc, il y a plusieurs formes d'idoles. Il y a des idoles, c'est des séries, des fois. Des fois, c'est des stars. Ça peut être un club de foot. Ça peut être n'importe. Ce qui prend la première place. Et pour les ados, des fois, pour les jeunes filles, les jeunes garçons, ce qui est une idole, des fois, c'est un petit copain, une petite copine. Combien de fois on déplore dans nos assemblées qu'on a des jeunes filles, des jeunes garçons qui vont mettre un pied dans l'instruction au baptême et hop, comme par magie, un petit copain, une petite copine se pointe et boum, il prend la première place. Pam, et l'idole, elle fait tomber un enfant qui allait être un enfant de Dieu. Mais normalement, dans la maison de Dieu, c'est les idoles qui tombent. C'est les hauts lieux qui sont dévastés. Et ce matin, qu'est-ce qui prend la première place dans mon cœur? Quelle est l'idole qui prend la première place dans mon cœur? On peut des fois venir dans la maison de Dieu, avoir une activité au final qui prend la première place. Et même le smartphone, c'est quand même fou de dire ça, le téléphone peut être une idole. Pour ceux qui connaissent, en 2018, il y a Soprano qui a fait une chanson. Je ne sais plus comment elle s'appelait, Mon Précieux. Mon Précieux, merci. Il parle il décrit quelque chose qui dès le matin nous prend la place. Il dit, tu te lèves le matin, la première chose que tu regardes, c'est quoi? Eh ben c'est le téléphone. Et ma génération fait ça. Je me réveille, oh, le téléphone. Au milieu de la nuit, oh, le téléphone, une addiction. On ne peut pas se coucher sans le téléphone, on ne peut pas se lever sans le téléphone, on ne peut pas se réveiller sans le téléphone. Une idole. On a des idolâtres aujourd'hui des écrans. On a des idolâtres des smartphones, on a des idolâtres des tablettes. Et ça, c'est ce qu'on appelle des choses chronophages qui viennent nous bouffer notre temps et qui viennent bouffer le temps que, précieux que nous avons alors qu'on pourrait le passer à lire la Bible. On a une génération qui ne lit plus, qui regarde des écrans alors qu'on pourrait passer du temps avec Dieu. On se fait bouffer par nos écrans, bouffer par nos tablettes. Excusez-moi de parler ainsi, mais c'est vrai. Ce sont des idoles à faire tomber. Ce sont des idoles, c'est quand même fou, hein. En 2021, on est obligé de dire qu'il y a des idoles sur un smartphone, on est obligé de les faire tomber, c'est quand même fou. Mais c'est vrai, telle est la réalité. Alors qu'est-ce qui prend la première place dans nos cœurs ce matin? Oui, parce que la Bible dit que les hommes peuvent avoir des idoles dans leur cœur. C'est écrit dans Ézéchiel, chapitre 14, verset 3, entre autres, hein, parce que la Bible, avec les idoles, elle y va. Hein. Il est écrit dans Ézéchiel 14, verset 3, « Fils de l'homme, ces gens-là portent leurs idoles dans leur cœur et ils attachent les regards sur ce qui les a fait tomber dans l'iniquité, ce qui les a fait tomber dans le péché. » Et même, vous savez, il y a des idoles, des fois, qui sont même ridicules. Il y a un homme qui était aux portes de la mort. On lui a dit, « Quelle est la chose la plus importante? Est-ce que vous pensez à votre éternité ?» Le gars, il dit, « Ce qui compte pour moi, c'est de me faire enterrer avec mon chien. » C'est quoi le problème, là? T'es aux portes de l'éternité, tu penses à ton chien. Moi, j'aime les animaux, j'ai 3 chiens. J'en ai 3. J'ai un berger blanc, un shih tzu et un setter anglais, pour ceux qui connaissent. Et j'ai 8 poules, j'ai un chat aussi. J'ai mes animaux, hein. Mais aux portes de l'éternité, eux à leur place et moi à la mienne. Je ne vais pas dire « Seigneur, amène-les avec moi ». C'est quoi ce délire ? Vous imaginez, le gars, moi, ce qui compte pour moi, c'est de me faire enterrer avec mon chien, aux portes de l'éternité. Vous voyez, les idoles, on n'imagine pas à quel point des fois elles peuvent prendre des places. Mais aux yeux de Dieu, il est écrit dans Éphésiens chapitre 5, verset 5, qu'aucun idolâtre n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. Aucun. Aucun idolâtre. Alors parfois, des fois, c'est l'idole, c'est nous-mêmes. Des fois, c'est des membres de la famille. Je suis de famille italienne, je sais de quoi je parle. Des fois, la mama, c'est la mama. La grand-mère a dit. Le grand-père a dit. Ça prend le dessus sur la parole de Dieu. C'est vrai, Mako, chez nous, c'est comme ça. Hein. Des fois, c'est mon côté italien. Amen. Luc 14, 26, j'ai pris la version Parole de vie 2017. Pourquoi ? Parce qu'elle dit « Celui qui vient à moi doit m'aimer plus que son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères, ses sœurs et même plus que sa vie. Sinon, cette personne ne peut pas être mon disciple. » Je ne suis pas en train de dire de rejeter la famille. Il y en a qui ont interprété ça comme « mais pas du tout ». Parce que la Bible aussi parle d'aimer sa famille, de ne pas la rejeter. Mais dans le sens où Dieu doit prendre la première place dans notre couple. Dieu doit prendre la première place dans notre famille. Dieu doit prendre notre première place dans notre cœur. On est tellement dans une génération égocentrique qui pense d'abord à son petit confort, à son petit bien-être, avant même la place que Dieu doit prendre dans nos cœurs. On pense à nous-mêmes, d'abord et après Dieu. Mais c'est Dieu d'abord. Et on pense des fois à nos familles, on est prêt à se sacrifier pour la famille. Il y en a, on les écoute, ils sont prêts à mourir pour leur famille. Il y en a un qui est mort et qui est ressuscité pour nos familles, c'est Jésus-Christ. On ne peut pas prendre cette place. Et même la famille ne peut pas avoir la première place. La famille d'abord, Dieu après. Dieu d'abord. Notre famille doit être dirigée avec l'aide de Dieu. Yes, il est Elkana. Le Dieu jaloux. Alors évidemment, ce n'est pas dans un sens péjoratif. Ça veut dire qu'il ne peut... Ça veut dire qu'il est jaloux en fait des idoles avec qui on le trompe. Et excusez-moi, parfois avec qui on se prostitue. C'est ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Des fois, il y a des idoles avec qui on se prostitue. Et Dieu est un Dieu jaloux dans le sens, le mot employé jaloux, là, est un mot qui est employé dans surtout dans le vocabulaire divin. Il ne peut pas siéger au milieu d'un peuple qui va aimer d'autres dieux et qui va prendre la première place. Ce n'est pas un Dieu comme ça. C'est comme si tu vas voir ton épouse et tu lui dis « Écoute, je t'aime, mais peut-être une autre aussi en même temps. » Tu vas voir ce qu'elle va te répondre. C'est normal. C'est une saine jalousie qu'elle dise « Hey, c'est moi la première place, non ?» Vice-versa, dans un couple. Ça va, vous êtes toujours là, Galiega Pensée ? Et peut-être que je vais vous choquer ce matin, mais il y a des idoles. Et des fois, l'Église peut être une idole. Des fois, on a placé l'Église, la vie d'Église avant Jésus lui-même. On a sombré dans ce qu'on appelle un peu en théologie l'églésianisme, c'est-à-dire que l'église prend la première place. L'activité dans l'église, l'activisme dans l'église prend la première place. Et vous avez des gens avec qui j'ai parlé des fois qui m'ont dit « Moi, l'église, c'est ma passion. » Normalement, c'est Jésus ta passion. Parce que c'est lui la tête de l'église. « Ouais, mais moi, les activités dans l'église, c'est ma passion. » Et vous avez des gens qui sont passionnés, entre guillemets, mais par tout ce qui environne les activités, les événementiels de l'église. Mais le corona est venu nous rappeler que l'église n'est pas un lieu événementiel. L'église et le milieu évangélique ne sont pas un milieu événementiel. L'église, c'est Jésus qui siège à la tête de l'église. Il est la tête du corps de l'église. Et c'est sa volonté qui prime avant notre agenda évangélique, quels que soient les super événements que nous puissions faire. Jésus est au-dessus de tous les événements que nous puissions faire. Parce que la première personne à qui nous devons penser en rentrant dans nos lieux de culte, c'est Jésus. Ce n'est pas l'agenda de tel camp, de tel ceci, de tel événement, de tel cela, de tel prédicateur, de tel orateur. Des fois, on a fait des affiches alléchantes en disant « Venez, venez nombreux parce que c'est lui qui prêche. » Parce que le thème, c'est ça, les 5 clés pour ceci, les 5 clés du bonheur. Et faites un thème avec écrit « Jésus, point barre ». Et bizarrement, il n'y a personne qui vient. C'est quoi le problème ? Les idoles, on a des fois des chanteurs, soi-disant chrétiens ou chrétiens, je ne suis pas là pour juger, pas du tout. Mais on a dans le milieu même de la prédication, de la louange, on se comporte en star. Moi, j'ai vu des groupes de louanges faire des séances de dédicaces. C'est quoi le problème ? Il y a un problème, non ? C'est-à-dire que vous avez Jésus, Dieu qui descend sur terre, il est habillé, excusez-moi, hein, mais avec 3 francs 6 sous, et nous on va faire les stars. Une fois, mon épouse quand elle était plus jeune, elle était allée voir un concert de louanges américaines, et elle était petite, alors elle était fascinée par... Et elle dit, est-ce que je peux prendre une photo avec le chanteur ? Le gars, il a dit seulement, t'achètes l'album. Chrétien, hein ? Il y en a, je ne sais pas où il se croit. On n'est pas au Music Awards. Il y en a un qui a chuté dans le ciel à cause de la louange. Il s'appelait Lucifer, vous connaissez ? Ouais, des fois on s'émerveille pour l'église, on s'émerveille pour le bâtiment. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut quitter le bâtiment, parce que ça aussi c'est une mode qui commence à me fatiguer. Oui, il faut quitter le bâtiment, ah bon ? Au nom de quoi ? Il faut quitter l'église, au nom de quoi ? Non, non, pas du tout. Bien sûr, l'église est un édifice spirituel, on l'avait vu en culte Zoom sur ce que représente spirituellement l'église. Mais des fois, dans le sens où on a tellement idolâtré l'église, on a tellement idolâtré le bâtiment, et des fois, on idolâtre une dénomination, on idolâtre un mouvement. Mais moi, je ne suis pas idolâtre d'un mouvement, je ne suis pas idolâtre d'une dénomination, je suis un adorateur de Jésus-Christ. Voilà la première chose à laquelle je dois penser dans Marc 13, alors que les disciples passent devant le temple avec Jésus, ils vont lui dire « Regarde-moi comme c'est beau ça !» Regarde, il s'émerveille devant le bâtiment, il va leur dire hey, « je vous le dis, il ne restera pas pierre sur pierre de ce que vous voyez. » Et la prophétie de Jésus-Christ va s'accomplir 70 ans après avec Titus, quand il va faire passer des chars et que pierre sur pierre vont être détruites du temple. Mot pour mot, la prophétie de Jésus va s'accomplir et c'est l'histoire qui le raconte, elle vient attester ce que Jésus avait dit. Parce qu'il ne restera pas pierre sur pierre. On ne peut pas être idolâtre d'un lieu. Je suis très heureux d'être dans ce lieu. Je suis très heureux d'être dans cette église. Ces locaux sont magnifiques et je souhaite qu'ils servent encore plus et encore plus et encore plus à la gloire de Dieu, qu'ils se remplissent d'âmes nouvelles, qu'ils se remplissent d'âmes sauvées. Amen. Qu'ils soient un repère pour l'église de Gap, mais pas parce que c'est un bel édifice, pas parce que ce sont des beaux locaux qui sont aux normes 2015-2019. Non, non, c'est parce que dans ce lieu règne la famille de Dieu, règne Jésus-Christ, règne l'amour, le salut des âmes, la guérison, etc. etc. Est-ce que vous le croyez ? Est-ce que vous le voulez ? Est-ce que c'est le désir de votre cœur ? Amen. Alors que Jésus prenne la première place. Qu'il prenne la première place. Oui, l'idolâtrie peut avoir plusieurs formes, mais aussi... comme je disais en préambule, des fois, c'est pas des idoles que nous allons prier qui sont des idoles. Des fois, c'est pas des images de Dieu que nous allons nous fabriquer nous-mêmes. On a compris que ce ne sont pas des choses à faire. Mais des fois, c'est dans notre esprit, dans notre mentalité, les fausses images que l'on se fait de Dieu. Oui, à Dieu soit la gloire. Des fois, on se fait une fausse image de Dieu. Un Dieu dur, un Dieu austère, un Dieu méchant, un Dieu qui frappe. Ou vous avez aussi les spécialistes du Dieu m'a dit. Ah oui, je les aime beaucoup. Dieu leur dit toutes les 2 minutes. Nous, ils ne parlent jamais, mais Dieu leur dit toutes les 2 minutes. Excellent. Super. Et vous savez, on a l'exemple des amis de Job. Là. Job, il est au cœur de la tempête, il n'a rien demandé à personne. Boum, il est frappé. Et vous avez ses amis autour. Mais qui lui disent, mais en fait, c'est peut-être que... On ne sait jamais ce que tu as fait, hein, mais peut-être que c'est mérité ce que tu traverses. Super, hein, quel encouragement. Eh ouais, mais Dieu... Et puis les gens parlent au nom de Dieu. Moi, combien de fois on m'a dit, mais pour telle ou telle situation, même pour ton ministère, moi, je pense que Dieu ne te veut pas ici. Moi, je venais de recevoir 3 paroles de connaissance qui disaient « Dieu te veut ici ». Et la personne vous dit, parce que vous comprenez, elle est plus connectée que vous, elle vous dit « Oui, mais moi, Dieu m'a dit, Dieu... » C'est quoi cette image de Dieu, là ? Ou des fois, un Dieu qui châtie, un Dieu à qui... comment dire ? Vous savez, dans Jean chapitre 9, non, Luc chapitre 9, verset 54, les disciples... Ils vont dire, mais Seigneur, tu veux qu'on commande le feu là? Tu veux qu'on commande le feu sur eux? Et vous avez des gens qui voient Dieu comme ça, qui disent, lui, il n'a pas été sympa, là, il faut que Dieu le frappe. Toi, je vais prier pour que Dieu te frappe, toi. Super l'image de Dieu. Mais dans nos milieux, il y a des personnes qui pensent comme ça, et des personnes qui raisonnent comme ça, qui ont cette image de Dieu, d'un Dieu méchant, lointain, inaccessible. Vous savez, dans l'islam, vous savez d'où vient l'expression le septième ciel en français? Parce que dans l'islam, dans le Coran, il y a sept ciels. Il y a sept ciels. Et le musulman n'a pas l'assurance de la vie éternelle, parce que le musulman, après, quand la mort vient, il passe forcément par l'enfer. C'est véridique, c'est coranique ce que je vous dis. Il passe forcément par l'enfer. Et selon ses œuvres, il peut accéder au premier, deuxième, troisième, quatrième, cinquième. Alors le top du top, c'est le sixième. Parce que le septième ciel, c'est le ciel où Allah vit seul, le Dieu unique, et il est inaccessible. Voilà l'image d'un Dieu austère et d'un Dieu dur. Moi, je n'ai pas le Dieu de l'islam. Hein, on aime les musulmans, on prie pour les musulmans de tout notre cœur. Mais c'est Allah, ce n'est pas Dieu. Allah, ce n'est pas Jésus. Ce n'est pas un Dieu lointain. Nous avons un Dieu qui s'est non seulement rabaissé jusqu'à nous, et si nous le suivons, si nous acceptons que nous renonçons à notre vie, nous pouvons non seulement le suivre, et il n'y a pas de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7e ciel, nous vivrons dans son ciel de gloire, et nous le verrons face à face. Mais ça, c'est une espérance extraordinaire. Il n'y a que l'Évangile qui promet l'assurance de la vie éternelle. Il n'y a que l'Évangile qui promet que nous verrons un jour Jésus. Il y a ce vieux chant que j'aime beaucoup qui dit « Je sais qu'un jour, mes yeux verront Jésus. Si je marche jusqu'au bout, par la foi et malgré tout, je sais qu'un jour mes yeux verront Jésus. » Ça, c'est un Dieu extraordinaire parce que l'image, j'en aurais pas besoin de m'en faire une. Je vais le voir face à face. Qui est heureux ce matin, qui est transpercé de pouvoir un jour contempler Jésus face à face? J'en ai les frissons, mon frère, ma sœur. Alléluia! On va voir Jésus. Est-ce que vous êtes heureux ce matin de voir Jésus? Est-ce qu'il ne mérite pas nos louanges, nos adorations, nos acclamations parce qu'un jour on va le voir? Amen! Il est vivant. C'est un Dieu vivant que nous prêchons. Et puis parfois, vous savez, Luc, j'aime beaucoup souvent reprendre Luc 15, la parabole du fils prodigue. La version espagnole ne l'appelle pas le fils prodigue, elle appelle ça le père prodige. Parce que le héros de l'histoire dans le fils prodigue, c'est pas le fils prodigue qui revient, c'est le père. Le père extraordinaire. Vous imaginez, dans le contexte juif, dans le contexte sémitique oriental, dans lequel Jésus raconte cette histoire, un père. Déjà, un père, ça ne sourit pas au Moyen-Orient à l'époque. Un père, ça te... Maman, elle est là pour te rassurer. Papa, il est là pour te corriger. D'accord? Et quand le fils... qui revient alors qu'il allait dilapider ses biens, il a été au milieu des cochons, c'est un juif. Hein, il revient, le père l'accueille. Donc vous avez un frère qui s'est fait une image d'un Dieu avec qui tu peux te permettre ce que tu veux, de toute façon, c'est pas grave, il va dilapider son bien. Et vous avez l'image du frère, lui, qui reste. Et lui, c'est le légaliste qui au final, il ne connaît même pas son père, en fait. Il s'en est fait une image où il a juste à être présent, juste à venir là. Et c'est l'image du légaliste un peu, et qui est frustré d'être dans la maison de Dieu parce qu'il ne connaît même pas son père. Il est là par habitude. Il dit, mais moi, je suis là tous les jours, je te sers et tout. Moi, je suis là, toutes les réunions, moi. Moi, je fais ceci, moi, je fais cela. Je ne comprends pas pourquoi, pour moi, tu n'as pas tué le veau gras. Pourquoi pour moi t'as pas fait? Et en fait, au final, on s'aperçoit que ce gars-là ne connaît pas son père. C'est quand même extraordinaire que le père accueille le fils qui est allé dilapider son bien avec les prostituées, au milieu des cochons, etc. Et c'est un père plein d'amour. Malheureusement, aujourd'hui, on a, vous savez, dans le milieu évangélique, on a deux courants. On a un courant qui est devenu tellement légaliste, sec, avec plus aucun amour pour les âmes, presque à vous dire qu'il y a un tri présélectif de ceux qui sont assez saints pour entrer dans le royaume de Dieu et les autres qui ne le sont pas. Mais sûr, eux, ils en font partie. Et vous avez l'autre qu'on appelle la prédication de la surgrâce, la surabondance, la prospérité, où tout est permis, on peut y aller, tranquille, Dieu, de toute façon, c'est un Dieu d'amour qui nous pardonnera, quoi qu'il en soit, quoi que, on peut faire des erreurs délibérées, au final, il est ouvert à tout, Mais le Dieu qui s'est retiré de Saül, c'est le même Dieu que nous avons aujourd'hui. Il y en a qui pensent que le Dieu de la première alliance n'est pas le Dieu de la nouvelle, c'est le même. Il n'y a chez lui ni changement, ni ombre de variation. Et Dieu, il n'est pas là pour habiter avec le péché. Hein. Avec le pécheur, oui. Mais pas avec le péché. Donc Dieu peut se retirer. Ananias et Saphira. Ça choque un peu comme histoire. Hein. Il ment au Saint-Esprit. Merci, au revoir. Là, ce n'est pas un jeu de bisounours. Il faudrait avoir peut-être une position assez équilibrée au milieu de un Dieu austère et un Dieu bisounours. Il y a un verset qui le résume, je trouve, plutôt pas mal, c'est qu'il est lent à la colère et riche en bonté. Il est lent à la colère, ça ne veut pas dire qu'il ne se met pas en colère, mais il est riche en bonté. Psaume 103 ou 145 pour ceux qui prennent des notes. Alors, vous savez comment il y a un nom en hébreu qu'on chante souvent, le Dieu puissant. En hébreu, El, yes, El Shaddai. Alors oui, il y a plusieurs, je trouve qu'El Shaddai résume bien cet équilibre. Pourquoi ? Parce que El Shaddai, oui, c'est le Dieu puissant, c'est le Dieu qui peut tout, mais Shaddai aussi, Shaddaim en hébreu, c'est les mamelles, le Dieu de la mamelle, le Dieu qui pourvoira. Et c'est ce Dieu-là, des fois, et on s'arrête sur El Shaddai, le Dieu puissant, comme ça, il fait que des miracles. Donc au final, on court après les miracles de Dieu, mais on ne court plus après le Dieu des miracles. Et à ce Dieu de la provision, le Dieu de la mamelle, vers qui on va tout le temps, comme un marchand de bénédiction, « Seigneur, donne-moi, 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 mais toi, quand c'est que tu donnes ?» Quand c'est que tu donnes ? Et bien sûr que c'est un Dieu, et je te le dis ce matin, si tu ne le connais pas, Dieu est là pour toi. Dieu t'aime et il veut te donner d'abord et avant tout. Il a donné sa vie pour toi. Il t'aime d'un amour démesuré au point qu'il a donné Jésus. Et il t'aime et il veut te sauver pour l'éternité. Et ça, c'est extraordinaire. Mais une fois qu'on a compris ça, on a envie de donner notre vie pour lui. Et il y a une autre facette qu'on n'aime pas beaucoup évoquer dans nos églises parfois, c'est que El Shaddai, c'est aussi El Shaddad. C'est la même racine, ça veut dire le Dieu dévastateur, le Dieu destructeur. Le même Dieu qui est descendu à Sodome et Gomorre tout détruire un jour. Parce qu'un jour, Jésus va revenir. Il y aura bien une fin à tout ça. Le temps de grâce continue et continue. Jésus tarde son retour pour qu'un plus grand nombre d'entre nous, un plus grand nombre de nos familles et de toute la terre entière, que les êtres humains puissent le connaître. Il tarde son retour par amour. Mais il ne nous a pas menti sur la fin. Un jour, la terre va être détruite. Et elle va être détruite par El Shaddai et El Shaddad, le Dieu dévastateur, le Dieu destructeur. Parce que, excusez-moi, mais un claquement de doigts et Dieu détruit la planète. Hein. Si on est impressionné par le corona, c'est Wellou à côté. Dieu, il dit, boum. Et un jour, la terre va être détruite. Et ma question, c'est, est-ce que tu es prêt pour le retour de Jésus-Christ ? Est-ce que tu es à l'ombre d'El Shaddai ? Est-ce que tu reposes à l'abri du Tout-Puissant ? El Shaddai, c'est le psaume qu'on retrouve, psaume 91, celui qui... À l'abri du Très-Haut, repose à l'ombre d'El Shaddai. C'est exactement ça. Alors pendant le corona, il y en a qui ont pris ce verset pour dire « Nous, le virus, on craint que dalle. » Sauf que le psaume 91, il dit qu'on peut être frappé par la pandémie, qu'on peut être frappé par la contagion. La différence, c'est qu'on est à l'abri d'El Shaddai. Et j'aimerais rappeler ce matin, pour ceux qui prennent ce psaume pour la prospérité, pour dire « Tu ne crains rien », c'est quand même le psaume que Satan a utilisé pour tenter Jésus. Alors ne nous tentons pas par le même verset. Ça va, c'est toujours clair ? Vous êtes toujours là ? Donc on peut aller à la dernière pensée. Elle sera plus courte. La troisième pensée, c'est connaître Dieu, connaître son image, pour s'accrocher dans les derniers temps que nous allons vivre. Nous sommes sûrement à la porte des derniers temps. Est-ce qu'on est accroché ? Est-ce qu'on est prêt ? Est-ce que si Jésus, demain, il revient, est-ce que tu es prêt ? Est-ce qu'ici, il revient à la fin de ma phrase, là ? Parce qu'il est écrit qu'il reviendra en un clin d'œil. Regardez, je fais un clin d'œil. Vous imaginez ? Rapide, quand même. Il va revenir en un clin d'œil, il va nous prendre. Est-ce que là, à la fin de mon clin d'œil, tu es prêt ? Est-ce que tu es engagé avec Jésus pour vivre avec lui dans l'éternité ? Ou alors... Il faut se préparer pour le connaître. Et Daniel chapitre 3, et je l'ai déjà évoqué, hein, mais j'aime bien des fois répéter. Des fois, c'est bien. C'est tellement prophétique, Daniel chapitre 3, parce que dans Daniel chapitre 3, il est demandé, il y a une statue qui est érigée. Il y a une statue qui est érigée et on va demander à toutes les nations, de toute race, de toute tribu, en même temps, au même son, de se prosterner devant cette statue. Vous vous rendez compte, il n'est pas écrit, il y a 200 personnes qui vont se prosterner devant cette idole. C'est toute race, toute tribu, de toute langue, au son de la cornemuse, se prosterne. Et c'est pour moi sa image, cette espèce de cuménisme, la mondialisme dans lequel on commence à rentrer. Je pense que bientôt, nous allons rentrer dans une espèce de religion mondiale où on pourra sans problème parler de Dieu. Peut-être que l'Antichrist lui-même se fera appeler Dieu et peut-être qu'on va forcer les nations à se prosterner, comme il est écrit dans Apocalypse chapitre 13, verset 4, à se prosterner devant la bête. Et mon frère, ma sœur, est-ce que tu es prêt à refuser de te prosterner devant la bête? Est-ce que tu es prêt à aller dans la fournaise plutôt que de te prosterner devant un autre Dieu? Parce qu'on est dans une génération, si vous parlez de Dieu, il n'y a aucun problème. Par contre, si vous dites le nom de Jésus, wouh, ça dérange. Peut-être qu'on va rentrer dans une phase où il y aura une espèce de religion mondiale où tout le monde sera content, oui, nous sommes un, super, adorant le Dieu machin. Et peut-être que ce sera l'Antichrist, mais quand vous allez dire le nom de Jésus, ça va déranger. Et vous vous rendez compte que dans les milieux œcuméniques, où on partage nos religions, oui, nous avons le même Dieu. Moi, je crois qu'on n'a pas le même Dieu déjà. Mais quand vous prononcez le nom de Jésus, bizarrement, le nom de Jésus dérange. Bizarrement, le nom de Jésus dérange. Et peut-être qu'on va vers une adoration d'un Dieu mondial. Mais préparons-nous, est-ce que tu es prêt à refuser? Parce qu'il n'y aura pas d'autre Dieu devant notre face. Ce n'est pas une loi. C'est pas une loi qui était réservée à Israël. C'est un commandement qui nous est réservé à nous aussi. J'espère que dans les temps de la fin, mon frère, ma sœur, tu refuseras d'adorer un autre Dieu que le Dieu d'Israël, Père, Fils et Saint-Esprit. Regardez ce qui vont répondre les amis de Daniel quand le roi va leur dire de se prosterner. Il va leur dire « Nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Si notre Dieu que nous servons peut nous délivrer, il nous délivrera de la fournaise ardente et de ta main, ô roi. Sinon, sache quand même, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as dressée. » Ils vont refuser, et je l'ai dit il y a quelques semaines, ils vont refuser, ils vont être jetés dans la fournaise. Et peut-être que l'Église, dans les temps de la fin, elle va refuser d'adorer le Dieu qu'on va nous proposer. Peut-être qu'elle va refuser la marque de la bête. Elle va refuser la marque de l'Antéchrist et elle va être mise dans la fournaise. Mais qu'est-ce qui se passe dans la fournaise? Il y a un homme qui va apparaître, un quatrième, qui a l'apparence du Fils des dieux et qui va être reconnu par le roi. Cet homme-là, c'est l'image du Dieu invisible. Selon Colossiens 1, verset 15, c'est l'image du Dieu invisible. Cet homme-là, c'est Jésus, le Fils de Dieu. C'est lui qui va t'apparaître et qui va sauver son Église et qui sera là au milieu de la fournaise. Est-ce que tu veux qu'il soit avec toi dans la fournaise? Est-ce que tu veux qu'il soit avec toi dans la fournaise? Parce que l'Évangile ne nous ment pas. Ceux qui voudront vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Ça, on ne l'entend plus beaucoup dans les prédications. On ne l'entend plus beaucoup. Hein? Oui, tu verras, quand tu vas te convertir, tout le ciel il va être encore plus bleu que bleu, le soleil il va briller plus que le... J'ai jamais eu autant de batailles dans ma vie que depuis que je me suis engagé avec Jésus. Mais à la fois, c'est le meilleur moment de ma vie. Parce que dans toutes mes batailles, il est là, il est présent. Et je sais que mes yeux sont fixés sur la rémunération éternelle. Que mon âme ne sera plus jamais dans l'angoisse. Mon âme ne sera jamais plus dans la peur. Je n'ai plus peur de la mort. Je n'ai plus les angoisses de la nuit. Parce que Jésus est venu m'en délivrer. Et un jour, je passerai ma vie avec lui. Mais ici-bas, il ne m'a jamais dit que tout allait être bien. Que j'allais faire une super balade avec des télétoubis et des bisounours. Et que tout allait bien se passer. Il m'a dit non, il y aura la fournaise, mais je serai avec toi. Est-ce que tu es prêt à aller dans la fournaise pour Jésus ce matin? C'est moins alléchant comme titre les 5 clés pour avoir le bonheur parfait dans sa famille. Hein. Est-ce que tu es prêt à être persécuté pour le nom de Jésus? Est-ce que je suis prêt? Seigneur, prépare-nous à rentrer dans la fournaise et je conclurai. Oui, la persécution arrive, mais Jésus sera avec nous. Donc, la première pensée, c'est quelles sont les idoles qu'il y a dans nos cœurs qui prennent la place? Il faut que, comme Dieu l'a demandé à Israël, les hauts lieux, les idoles tombent. Quelle est ton idole qui doit tomber? Qu'est-ce qui prend la place de tes temps de prière? Qu'est-ce qui prend la place de tes temps avec Dieu. Seigneur, délivre-moi de mes idoles, que les hauts lieux tombent. Que les hauts lieux tombent. Qu'est-ce qui fait que j'ai faussé mon image de Dieu? Des fois, on s'est fait l'image d'un Dieu austère, un Dieu méchant. Et on vient dans la présence de Dieu, presque il faudrait être complexé d'être joyeux. Sois heureux dans la maison de Dieu. Combien de fois il est écrit « Soyez joyeux, réjouissez-vous dans l'éternel ». C'est normal. Nous avons un Dieu de joie. Nous avons un Dieu qui, au milieu de la tempête, au milieu des guerres, au milieu de tout ce que vous voulez comme épreuve dans le monde, il nous donne le sourire. C'est normal de se déhancher, d'avoir le sourire dans la maison de Dieu. C'est normal de taper des mains, d'être debout, d'avoir le sourire dans la maison de Dieu. C'est tout à fait normal. Et mon frère, ma sœur, je t'encourage ce matin, ne retiens pas ta louange, ne retiens pas ton adoration malgré les épreuves de la vie. Il y en a qui, dans la Bible, ils ont loué l'Éternel dans la prison et les barreaux sont tombés. Je m'écris « Loué soit l'Éternel et je suis délivré de tous mes ennemis ». Et des fois, la clé de la délivrance est dans l'adoration au milieu du feu, au milieu de la fournaise. Continuons d'adorer l'Éternel malgré l'austérité, malgré la laïcité, malgré les attaques contre l'Église, malgré la censure. Nous continuerons d'adorer l'Éternel. Nous continuerons d'élever le nom de Jésus. Est-ce que l'Église dit Amen? Est-ce que l'Église est bouillante pour Jésus? Alléluia! Donc, les fausses images de Dieu que nous nous sommes faites, Dieu pour moi, pour moi, pour moi, pour moi. Ça, c'est au début, Dieu nous donne tout. Amen. Il nous a donné son salut, il nous a donné le Saint-Esprit. Mais à quelle heure vas-tu dire « moi pour Dieu » ? Paul, il va commencer ses épîtres en disant « J'ai été saisi par Jésus-Christ. » Mais il va finir en disant qu'il a donné sa vie pour Christ. Pas « il a donné », vous m'avez compris. Et apprenons à connaître Dieu. Nous avons besoin de connaître Dieu. Qui est notre Dieu? Nous allons dans des temps difficiles. Nous allons vers la persécution. Nous allons vers la censure. Nous allons vers l'apostasie, le refroidissement de la foi. Est-ce que tu veux aller dans l'apostasie ou te réchauffer auprès de Jésus-Christ? Est-ce que tu veux abandonner la foi ou continuer à avoir la foi en Jésus-Christ? Connais Jésus. Connais Dieu ce matin. Lis la Bible. Prie chaque jour. Comme dit le chant pour les enfants. Lis ta Bible. Prie chaque jour si tu veux grandir. Est-ce qu'on peut prier ensemble? Merci Jésus. Tu es Dieu. Et ta parole nous dit que parfois les idoles ressemblent à ceux qui les ont construites. Et on ne veut pas être comme des statues, on ne veut pas être comme des santons dans ta présence. Sinon, on veut te ressembler à toi et toi, tu es un Dieu vivant, tu es l'image du Dieu invisible. Nous voulons être à ton image, vivant. Tu es ressuscité, nous sommes ressuscités avec toi. Et c'est des vivants qui louent et qui adorent notre Dieu en esprit et en vérité. Nous voulons rester vivants, nous voulons rester dans la joie, nous voulons rester dans le bonheur de te connaître, Jésus. Nous ne voulons pas nous faire des fausses images de toi, nous voulons te connaître de près. Pour ça, on a besoin d'entendre ta parole, on a besoin d'une église, on a besoin des anciens, on a besoin des diacres, on a besoin de pasteurs, on a besoin d'enseignants, on a besoin de docteurs, on a besoin de prophètes. Seigneur, réveille-nous. Seigneur Jésus, réveille-nous. Réveille ton Église. Envoie le feu. Envoie le feu du Saint-Esprit. Donne-nous de voir comme toi tu veux qu'on te voit. Seigneur, nous te regardons des fois avec des yeux humains, avec des a priori. On te regarde comme une maigre idole. Seigneur, tu n'es pas une idole. Tu n'es pas une statuette. Tu n'es pas un objet de superstition. Tu es le Dieu omniprésent, omnipotent qui a créé l'univers. Merci parce qu'un jour on va te voir. Je prie pour celui ou celle qui ne te connaît pas ce matin. Tu as donné ta vie pour lui. Tu as donné ta vie pour elle. Mon frère, il a donné sa vie pour toi. Jésus t'aime. Écoute bien, Jésus t'aime. Il a vu tes travers. Il a vu par tout ce que tu es passé. Il a vu tes angoisses de la mort. Il a vu tes angoisses ténébreuses. Il a vu tes cris de douleur, mais sache bien que la Bible dit « Quand un malheureux crie, l'Éternel entend. » Et le Seigneur t'a entendu, il t'entend. Il te restaure, il veut te relever et il veut te sauver pour l'éternité. Il t'aime. Tu t'es peut-être fait une image d'un Dieu lointain qui ne veut plus de toi. Jésus veut de toi. Il est venu pour toi. Ce n'est pas un Dieu austère, ce n'est pas un Dieu méchant. C'est un Dieu rempli d'amour qui t'aime. Mais pour ça, il faut que tu renonces à ta vie de péché. Il faut que tu renonces à cette ancienne vie pour que tu puisses le suivre. Voilà ce que dit la parole de Dieu. Et tu le verras pour l'éternité. Seigneur, merci pour ta parole. Donne-nous de demeurer fermes jusqu'au bout, jusqu'à ton retour. Garde-nous de l'apostasie. Garde-nous du refroidissement. Seigneur, et pendant la persécution, donne-nous de rester debout, accrochés à toi, en dépit de la fournaise. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Soyez encouragés, il est vivant.